dans les coulisses de Red Bull Bora Hansgrohe, le podcast d'OVB Online sur le Tour de France. Pendant 3 semaines, nous accompagnons le manager de l'équipe, Ralf Denk, au cœur de la plus grande et la plus titrée des équipes cyclistes allemandes sur la Grande Boucle. Vous avez des questions pour Ralf Denk ? Envoyez-les à tobias.ruf@media.de et maintenant, profitez bien de ce nouvel épisode.
Mathieu Van Der Poel remporte la 21e étape du Tour de France. Tadej Pogacar est vainqueur au classement général pour la 5e fois et Remco Evenepoel assure souverainement le podium pour Red Bull Bora Hansgrohe. Qu'est-ce que c'était que ça, m'a-t-il écrit. Et maintenant, je vais discuter avec lui de cela, de bien d'autres questions et de nombreux sujets autour de ce Tour de France. Bonsoir donc à mon collègue présentateur, Corbinian Sauter. Salut Corbinian.
Bonjour Toby et salutations depuis Rosenheim.
Rosenheim, oui, une configuration inhabituelle, vous le remarquerez, pour ceux qui nous ont écoutés hier après la 20e étape. C'est devenu une tradition, Ralf Denk, que vous entendez et attendez habituellement ici, est incroyablement occupé ce jour-là à Paris. Ralf l'a dit, il y a les sponsors, les partenaires, la famille et les amis qui sont là. Vous aurez tous, je l'espère, vu ce qui s'est passé aujourd'hui à Paris. Nous lui avons toujours dit « Hey, Ralf, profite-en ». Il y a tellement d'énergie là-dedans. Faites ça avec ton équipe et on te laisse tranquille dimanche soir. Mais vous n'aurez pas à vous passer de l'analyse finale de Ralf Denk. Nous l'enregistrerons demain. Vous le retrouverez demain dans votre flux. Mais oui, Corbinian, revenons sur le Tour de France et sur la façon dont nous l'avons vécu tous les deux. Nous avons eu la chance de le suivre ici chaque jour, chaque soir dans le podcast avec Ralf. Et commençons par la toute fin. Tu m'as posé la question, c'était quoi ça? Commence donc et donne la réponse toi-même. Complètement dingue, non?
Oui, sensationnel, un spectacle absolu. Je n'aurais jamais cru que ça deviendrait un tel numéro avec vraiment tout dedans. Par exemple, je n'avais jamais vu Pogacar atteindre ses limites sur le Tour. Et puis un Van Der Poel qui dit à la fin qu'il pensait à cette course depuis un an, depuis son abandon l'an dernier et même avant, en regardant les images. Ensuite, les sprinteurs reviennent sur eux. Il y avait vraiment de tout. Et puis il y a Montmartre, c'est où les fans sont complètement déchaînés. Et je suis resté là sans voix et j'ai vraiment pris du plaisir lors de cette dernière étape. Je ne sais pas ce qu'il en a été pour toi.
Oui, et à quelle vitesse tout est allé. Oui, en fin de compte, nous avons passé 3 semaines. J'ai vu presque chaque minute du Tour de France et c'est la routine. On allume la télé et une étape commence. On choisit évidemment ses moments. Là, ça devient très important. Je regarde de plus près et puis l'étape se développe. Et là, c'était un court échauffement de brèves images. Les belles que l'on connaît, des Champs-Élysées, qui représente aussi, l'hommage à la performance de tous ceux qui ont atteint Paris. Et puis, tout s'est enchaîné très vite, coup sur coup. Et soudain, ce groupe, et tu as évidemment vu très, très tôt, qui a des intentions aujourd'hui, et que nos collègues Pogacar et Van Der Poel avaient de grandes ambitions aujourd'hui, c'était évident dès le premier passage à Montmartre. Et quand on voit, et je me souviens de l'année dernière, j'étais assis devant ma télé, complètement stupéfait en me disant « Hey, Pogacar, tu es sur le point de gagner le classement général et tu roules comme si tu n'avais encore
sous
rien gagné. »
Sous la pluie, en plus.
Oui, brutal, brutal. Il n'a pourtant aucun risque à prendre.
Del Toro, par exemple, son coéquipier, a lâché prise dès le début aujourd'hui et a dit « Ma bâche sécurise le podium ici. »
Non, mais avec un Tadej Pogacar, c'est impossible. Et Evenepoel a essayé lui aussi. Et ce groupe, pendant un court instant, Pedersen, Evenepoel, Van Der Poel, Pogacar, avec ce décor, avec ces images à Paris, waouh, ça m'a vraiment fait quelque chose. Et bien sûr, la façon dont ça se termine.
Oui, si quelqu'un avait écrit un tel scénario, nous aurions dit, enfin, nous sommes du métier, Corbinian, certains de nos collègues auraient dit, écoutez, c'est un peu trop, n'est-ce pas? Et puis cette scène à l'arrivée, quand Philipsen lève la main,
Là, je me suis dit, c'est Philipsen qui a gagné, oui. Et puis, au final, on se rend compte que Philipsen célèbre la victoire de Van Der Poel, son coéquipier, ce qui boucle la boucle, car c'est Van Der Poel qui a sauvé le Tour de France pour Philipsen. Ça aurait été un tour super décevant pour lui, parce que Tim Merlier l'avait totalement dominé pendant les phases de sprint. Oui, et si ça durait 20 mètres de plus, Van Der Poel ne gagne pas, mais bon. Oui, moi, j'ai toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ce sprint royal à Paris. Et en fait, je le souhaite secrètement, mais que dire aujourd'hui? Après de telles images, une telle étape, cet enthousiasme, non, ils m'ont vraiment fait changer d'avis aujourd'hui. Alors, gardez ça comme ça, exceptionnel.
Absolument. On a surtout vu que les sprinteurs ne sont pas sans chance. Si tu as une équipe, Decathlon a travaillé dur aujourd'hui pour ramener Olaf Koij. Il a fini cinquième. Ce n'est pas comme si les équipes ne pouvaient rien préparer. Max Kanter était déçu, quatrième place. Oui, vraiment fort, impressionnant. Oui. Il a fait une super tourbe, il faut aussi le souligner. Mais ça n'enlève rien et en échange, tu as du spectacle pendant les 30-40 dernières minutes, en dernière minute, pas seulement les 10 dernières secondes après une longue parade. Je comprends quand que ça fait partie du jeu, mais je trouve qu'une telle version est bien plus intéressante pour les fans.
Absolument. Il faut trouver une autre solution pour le sprint. On en a beaucoup, beaucoup discuté pendant le tour et j'y ai aussi réfléchi. J'en ai glissé un mot à Ralph. On verra bien si on essaie de trouver quelque chose l'année prochaine. Oui, une fin géniale pour un Tour de France qui t'a plu dans l'ensemble.
Eh ben, je trouve qu'il y avait beaucoup de choses. Je dirais qu'on a aussi imaginé quelque chose spécialement pour revenir là-dessus. Je pense qu'on peut revenir sur des moments précis, car je crois qu'on a assez parlé de chaque étape. C'est pourquoi on a préparé 5 catégories pour revenir sur nos moments forts. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir cette année lors de mes étapes, vraiment.
Mm-hmm. Oui, je suis d'accord. Il y a énormément de choses dedans. À certains moments, je trouvais que c'était trop prévisible. Ces histoires d'outsiders que j'aime toujours beaucoup dans le sport ont un peu manqué à mon goût. Il y en a eu ponctuellement, mais c'était assez rare, ce qui est aussi un peu dû, je trouve, au tracé du parcours. Dans l'ensemble, un tour vraiment sympa, c'était plaisant. Bien sûr, s'il y a toujours ce facteur, mais tant que Pogacar court dans cette forme, nous ne vivrons pas ce suspense intense. On s'y est habitué, car le plus important reste la victoire finale. Mais s'il est dans cet état de forme, cette grande ferveur ne pourra tout simplement pas voir le jour. Mais oui, je dois dire que même si on ne parle plus vraiment du classement général, c'est quand même un tour qui a offert énormément de choses au bout du compte. Et c'est pourquoi mon bilan global est vraiment très, très positif. On passe aux catégories.
Absolument. Je suis prêt.
Alors, allons-y. Nous en avons prévu 5. Et nous commençons par la catégorie numéro 1, la surprise du tour. Tu peux commencer avec ta surprise.
Je commence, j'ai sélectionné quelques éléments qui ne sont peut-être pas si évidents et je choisis donc Mauro Schmid. Le Suisse m'a énormément impressionné car ce sont exactement ces histoires qui font la légende du Tour. On en a un qui travaillait comme mécanicien auto chez ses parents, qui n'était pas un grand espoir de la jeunesse. Un Mark Hirschi, par exemple, était bien plus présent et cette année pour Jayco Alula, il a été sensationnel. Si on regarde ce qu'il apporte à l'équipe, avec Ben O'Connor en leader, Michael Matthews au sprint, eh bien, il fait tout pour eux. Il décroche une victoire d'étape en échappée, finit deuxième au sprint derrière Jasper Philipsen et termine encore deuxième d'une étape de montagne difficile derrière Richard Carapaz. Enfin, on ne peut pas faire beaucoup mieux et il m'a vraiment beaucoup plu.
Oui, l'une des très rares histoires d'outsider, c'était vraiment Mauro Schmidt. Donc, bon choix, je suis d'accord.
Quelle est ta surprise?
Oui, ma surprise est... pas un outsider, enfin, on ne peut vraiment pas dire ça, mais la performance de Remco Evenepoel en haute montagne, waouh, je ne m'y attendais pas du tout, honnêtement. Après les expériences du passé, et puis on voit le Tourmalet assez tôt. Et là, je me suis dit, oula, est-ce que le plan de mettre Evenepoel sur le podium va marcher? Après les séquences du début, où il avait vraiment des problèmes dans presque chaque montée, dès que ça devenait intense, je me suis dit, waouh, il peut bien essayer de gagner du temps autant qu'il veut. Il devra le faire lors de ses trois dernières étapes alpines qui se déroulent jeudi, vendredi et samedi, car après, il n'y a plus aucune chance, on l'a bien vu aujourd'hui, de redresser la barre. Je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse tenir le rythme en haute montagne comme il l'a fait. Cela m'a extrêmement surpris et Ralph l'a dit hier, c'est le meilleur Evenepoel de sa carrière en haute montagne et on a cessé d'en parler. Oui, il a perdu 4 kilos, disait-on publiquement. Ralph ne l'a jamais confirmé précisément, mais il l'avait lui-même déjà laissé entendre.
Et qu'est-ce que cela signifie? Est-ce qu'automatiquement, on se dit « je perds 4 kilos et je peux finalement suivre le rythme en haute montagne sans aucun effort? »
Si tu maintiens ce niveau, oui.
Oui, et c'est ce qu'il a fait et tout ce programme d'entraînement, le retirer très tôt du calendrier, ne plus le faire courir, comportait un risque absolu et cela aurait pu lui coûter très cher, mais c'est une réussite totale.
L'équipe aussi, Ralph en a parlé hier à propos de Gils qui s'améliorait sans cesse et de Hintl qui finissait toujours très fort, repensez au début. Nous avons reçu beaucoup de messages de votre part, les auditeurs.
Je pouvais tout à fait comprendre, qu'est-ce qui se passe avec l'équipe? Ils n'étaient pas du tout présents au début. Mais c'était une planification stratégique magistrale avec un Evenepoel qui a conclu en beauté. Je n'aurais pas pensé qu'il soit aussi fort en haute montagne. Et il faut bien dire qu'Evenepoel se place en position pour la victoire du Tour de France. Nous ne savons pas combien de temps Pogacar continuera. Il a souvent laissé entendre « il se peut que j'arrête assez tôt ». Il n'y a qu'un an d'écart entre eux et Ralph a aussi souvent dit ces dernières années, quand on a autant de succès si jeune, une forme de lassitude peut s'installer sans pour autant connaître les détails. Mais Pogacar le dit lui-même, et ça ne me surprendrait pas si, 2 ans après les Jeux Olympiques qui lui manquent encore, il disait « Eh, j'aurais alors gagné 6 ou 7 fois le Tour de France. Il est maintenant à égalité avec les plus grands. » Et à partir d'une 6e victoire, il deviendrait le recordman. Et s'il dit tôt « j'arrête », il faut déjà se positionner et se préparer en sachant de quoi l'ai-je besoin pour gagner un Tour de France. Et un Evenepoel avec cette forme en haute montagne, avec ses qualités de rouleur, nous avons normalement 2 contre-la-montre individuels et non ce court contre-la-montre par équipe qui n'a finalement eu aucun impact sur le classement général. S'il a 2 contre-la-montre individuels, peut-être sur de plus longues distances, cela peut être la base pour, en gros, n'avoir qu'à suivre en haute montagne. Avec une telle performance en haute montagne, il se place, selon moi, idéalement pour l'ère d'après Pogacar.
Oui, absolument. Je crois que Pogacar a un contrat jusqu'en 2030, mais ça ne veut pas dire qu'il aura envie de gagner le Tour à chaque fois jusqu'en 2030. À un moment donné, il s'ennuiera peut-être, comme pour les monuments. Il les gagne une fois et dit ensuite, ça, je ne reviendrai pas sur ces classiques.
Eh bien, ou alors il arrive quelque chose, on a vu à quelle vitesse ça peut aller et il ne peut alors pas faire le Tour. Donc oui, Remco Evenepoel, c'est pour ça que c'est une surprise pour moi. Bon, passons à la déception du Tour.
Je commence cette fois-ci, j'ai choisi l'équipe Netcompany, Ineos.
Bien sûr, le plan était d'aller au Tour de France avec Oscar Honley, qui a fini 4e l'an dernier comme leader. Il a dû déclarer forfait environ 2 semaines avant le départ. Cette équipe Netcompany, Ineos, a un budget vraiment élevé par rapport à beaucoup d'autres formations. Au final, il termine 20e au classement général grâce à Egan Bernal. Il y a pourtant énormément de noms prestigieux. Et à part lors du contre-la-montre par équipe au tout début, je n'ai honnêtement presque pas remarqué cette équipe. Et pour une formation qui a un tel budget, qui compte autant de coureurs renommés, nous parlons ici de l'équipe qui a absolument dominé les années 2010. Ils ont remporté le Tour de France 7 fois.
Désolé, mais pour moi, c'était vraiment brutalement décevant de voir qu'après l'abandon d'Oscar Honley, ils avaient apparemment aucun plan B. Ça me dépasse.
Absolument. Ils ont placé la barre très haut avec leur succès, même à l'époque où ils s'appelaient Sky, et vouloir maintenir ce niveau est tout à fait compréhensible. Je peux déjà vous dire qu'il faut surveiller l'heure. Nous en sommes déjà à 16 minutes bien tassées. Par conséquent, il ne reste plus beaucoup de temps. C'est pourquoi je passe vite à ma déception suivante. Je choisis aussi une équipe, mais je prends DSM, Firme Niche Post-NL. Et là, je reviens à Oscar Honley, mais celui de l'an dernier. Il avait fini 4e pour cette équipe.
Il a fini dernier du classement par équipe cette année. On a donc veillé l'an dernier à ce qu'il ne prive pas Florian Lipovits du podium. Cette fois, ils étaient presque inexistants, mais ils en ont fait toujours, du moins si l'on en croit. Cite un budget raisonnable. Ils ont aussi Warren Barguil comme capitaine quand ils voulaient viser les étapes et les échapper, ce qui est dur sur ce tour. Et rien contre John Degenkolb qui est encore là et qui finit son 5000e tour, on dirait. J'ai le plus grand respect pour ce gars, mais l'équipe a montré extrêmement peu de choses et ils sont aussi très, très, très bas au classement mondial. Et s'ils continuent comme ça, ils doivent même craindre de ne plus être une équipe du World Tour. C'est pourquoi c'est ma déception.
Eh bien, Ralph l'a dit, Christian Prudhomme dit à ses équipes, « Bien sûr, vous avez la licence World Tour, mais si vous ne l'avez plus, un jour, vous ne serez plus là, car ça devient difficile. » Katiki, la troisième catégorie est la meilleure étape. J'ai choisi le numéro 17, que Jasper Philipsen finit par gagner. La boucle est bouclée par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Van der Poel lance le sprint pour lui, sauf ce Tour de France pour son coéquipier. Pourquoi l'ai-je choisi? Ce sport est tellement millimétré. Il est tellement axé sur le perfectionnisme dans tous les domaines. Rien n'est laissé au hasard et pourtant, il existe des étapes qui sont un chaos absolu du premier au dernier mètre où même les protagonistes ne peuvent expliquer ce qui s'est passé. Je trouve ça génial car le sport doit toujours garder une part. Surtout à l'époque de Pogacar, quand le sport conserve une part d'imprévisibilité que les gens ne savent pas comment ça va finir, ça fait un bien fou au sport.
Ouais, c'était une étape sympa. C'était vraiment amusant. Pour moi, c'est 15-2-2 à 20, en quelque sorte. C'était exactement, nous l'avons déjà évoqué, le moment où il est devenu clair qu'Evenepoel s'est grimpé, ça a vraiment chauffé à l'avant. Visma voulait tenter quelque chose, puis Vingegaard chute dramatiquement dans le virage. L'un des grands favoris est éliminé et peu après, nous voyons les trois personnes qui finiront sur le podium, seules en tête. Poggi devient un équipier de luxe, il essaie d'emmener le taureau. Evenepoel est le seul à pouvoir suivre. Et oui, le reste appartient à l'histoire, comme on dit. Il gagne une étape avec beaucoup de dénivelé et une arrivée au sommet. Et dès lors, c'était clair, ça pouvait le faire.
Bien, passons au moment du Tour de France. Tu as évoqué la chute de Vingegaard.
De mon côté, c'est malheureusement aussi un triste moment quand j'ai vu Florian Lipovits allongé lors du contre-la-montre. Mon petit monde du cyclisme s'est effondré parce que il a, malgré tout le tumulte autour de ce sujet de double leader, nous savons tous qu'il n'aime pas vraiment ça et qu'il veut juste faire du vélo. Et alors, inévitablement, une telle agitation surgit aussi avec les déclarations d'Evenepoel auparavant. Et il a géré ça avec un calme olympien, tout comme il se déplace sur son vélo. Il a fait son Tour de France.
le contre-la-montre était fini, il était extrêmement bien parti. Et puis, il y avait toujours cette troisième semaine, les étapes de Lipovitz arrivaient, elles étaient en vue, elles lui correspondent.
C'est exactement son profil, c'est exactement ce qu'il sait faire.
Et puis, tu vois, une erreur, une fois trop vite dans ce virage, une chute bête, fini. J'ai eu tellement de peine pour lui, et là, j'aurais été tellement curieux de voir la suite pour lui. Et oui, je suis aussi curieux de voir la suite concernant le double leadership. Je veux dire, Evenepoel a marqué les esprits maintenant. Oui, s'il reste en forme et en bonne santé, je pense qu'on ne pourra pas vraiment discuter du rôle de leader l'an prochain, du moins au début du Tour de France. Avec une telle performance, deux victoires d'étape et ce résultat final, je pense que ce sera vraiment dur pour Florian de retrouver ce niveau de double leadership. Mais hé, c'est seulement son deuxième Tour de France. Laissons-le peut-être courir la Vuelta ou le Giro en tant que leader et préparons-le ainsi pour l'après Tadej Pogacar. Super passionnant, super intéressant et vraiment dommage de la façon dont le Tour s'est finalement terminé pour lui. Quel est ton moment fort du Tour ?
J'ai quelque chose d'un peu plus joyeux, bien que mitigé. J'ai Thorstein Tran, peu importe comment on peut l'entendre. Non, donc le Norvégien...
Me dire qu'il faut surveiller l'heure. Et maintenant, réciter 25 prononciations de Thorstein Tran ici.
On pourrait regarder qui a eu le plus de temps de parole à la fin, hein ?
Oui, d'accord.
Non, Thorstein Tran doit abandonner le Tour après avoir décroché le maillot jaune de façon sensationnelle. UnoX Mobility, l'équipe norvégienne, nous a fait vibrer et oui, il a vécu un calvaire personnel. Il décroche ce maillot jaune, puis le lendemain, il accroche la roue de celui qui le précède dans la descente. C'était au moment où Pogacar a attaqué devant et lui aurait de toute façon pris du temps. Mais c'était très dramatique que le maillot jaune doive abandonner ce jour-là ou plutôt qu'il se soit battu jusqu'à l'arrivée avant que son tour ne s'arrête.
Eh bien, et tu le dis, pour la Norvège, un super Tour de France. Et si on compare l'Italie sans victoire d'étape, la France sans victoire d'étape, l'Espagne sans victoire d'étape, ce sont les trois pays qui organisent les trois grands tours. Je ne sais pas si cela a déjà existé, mais je trouve ça impressionnant. Pour l'Allemagne, on n'a même plus besoin d'en parler. Je crois que la dernière victoire d'étape allemande remonte à 5 ans.
Mais bon, regardons l'heure. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Ben, dernière catégorie, on peut oublier ça.
Je fais court, j'ai 2 points. La nouvelle règle pour le contre-la-montre par équipe. Je veux dire, on ne verra sans doute pas souvent de contre-la-montre par équipe dans les prochaines années, mais je trouve ça complètement idiot. Ça n'a rien à voir avec un contre-la-montre par équipe pour moi. Alors, prenez les 3 premiers pour le classement. Et là, c'est un contre-la-montre par équipe. Mais tel que ça a été mis en place, non, ça ne m'a pas du tout convaincu. Et je n'ai pas trouvé ça génial non plus au niveau de la répartition, de voir ces 3 étapes alpines en bloc à la fin. J'aurais préféré que ce soit mieux réparti pour la dernière semaine.
Oui, je comprends. Dans ce cas, ça avait un certain sens d'essayer le contre-la-montre par équipe. Mais évidemment, pour une équipe, quand un seul arrive, on peut en discuter. Pour moi, j'ai écrit de manière un peu polémique des étapes de plat. Je voulais dire plus précisément les étapes de plat de ce tour, car elles étaient vraiment marquées par le fait qu'à l'avant, un coureur, le français, était le plus souvent seul, parfois accompagné. Et on n'avait même pas l'impression qu'il réussissait à s'échapper. C'était toujours 1 minute, 2 minutes, et à la fin, ça sprintait. Il faut trouver une solution, vous en avez déjà discuté. Peut-être créer plus d'incitations, ajouter des petites bosses, des sprints bonus. Il y a ce bonus de temps Red Bull au kilomètre lors du Giro qu'ils ont testé. Je ne sais pas si c'est la solution idéale, mais Thomas, il faut faire quelque chose pour essayer de redonner un peu de suspense au-delà des 3 dernières minutes de cette étape.
Exact, je vais en discuter avec Ralph. J'ai une petite idée. Mais ne la surestimons pas. Bien, c'était nos 5 catégories. Et pour toi, c'était ça, le tour, mon cher Corbinian.
Oui, je m'y remets demain. Il y aura le retour sur la course avec Ralph Denk, comme vous en avez l'habitude. Un grand merci à toi, Corbinian, pour cette collaboration, comme toujours formidable, durant ce Tour de France. Et je te laisse donc partir en vacances du Tour. Mais nous travaillons dans la même entreprise. Corbinian ne sera pas en congé jusqu'au mois de juillet prochain.
Ce serait bien. On pourrait vraiment instaurer ça, je trouve, travailler un mois et avoir 11 mois de congé. Comme ça, je pourrais moi-même faire encore plus de sport.
Tu sais, nos patrons nous écoutent. Oui, quand est l'Ironman à Hawaï? C'est prévu pour quand?
10 octobre. Il m'en reste un peu. Mais les vols sont réservés. Je suis prêt et il y a encore beaucoup de travail d'ici là.
Exactement. Alors, je croise les doigts pour toi. Comme je l'ai dit, merci encore pour ton soutien durant le Tour de France. Vous m'entendrez avec Ralph Denk demain. Et Corbinian, tu peux maintenant dire au revoir à nos auditeurs.
Oui, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Comme toujours, j'ai été ravi et j'espère à l'année prochaine. Restez fidèles et salutations depuis Rosenheim.
C'était l'édition actuelle de Inside Red Bull Bora Hansgrohe, le podcast d'OVB Online sur le Tour de France. Vous trouverez le podcast sur toutes les plateformes d'écoute et sur les sites d'OVB Media et d'IPEN Media. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine édition.